повесить, застрелить его, кричали в толпе. Страшная, безжалостная, жестокая толпа мужчин и женщин окружала человека.
Si un homme a beaucoup plus qu'il ne faut, c'est que d'autres manquent de l'essentiel. Lev Nikolaïevitch Tolstoï. Léon Tolstoï, sa vie, son œuvre, son engagement dans la Russie du 19e siècle. Une émission de Claude Ferret.
Bonjour et bienvenue dans l'émission de Claude Ferret. Claude Ferret qui nous invite à voyager dans la vie et l'œuvre de Tolstoï. Alors dans cette 7e émission, direction Moscou, où la famille Tolstoï va déménager. Nous sommes en 1881 et Tolstoï traverse la plus grande crise existentielle de sa vie. Claude Ferret, bonjour.
Bonjour à vous. Eh bien, nous sommes dans la 7e émission. Ça arrive vite chaque mois quand même. Et donc, comme je vous le disais l'émission dernière, Tolstoï vient de terminer Anna Karénine. Il est dans l'après de ses deux grandes œuvres et cette grande fameuse crise existentielle qui l'ébranle de tout son être. Et son épouse, qui est un peu fatiguée de tous ces soubresauts qui remuent quand même pas mal la vie quotidienne, la vie familiale. Tolstoï n'est pas quelqu'un de facile à vivre. Un personnage de cette envergure, de cette qui vit des contradictions énormes. Donc, c'est pas toujours facile. Voilà, donc... Elle souhaite, Sofia Andreevna, partir à Moscou pour éduquer les enfants qui grandissent. 17 ans de vie à la campagne dans son domaine de Yasnaya Polyana, c'est déjà pas mal. Et Tolstoï n'est pas très d'accord de partir en ville. Lui est très attaché à son domaine, à la vie à la campagne, avec ses moujiks, travailler dans les champs. Il voit ça mal. Mais bon, il suit quand même sa femme. Ils vont partir à Moscou. Donc en 1881, la famille Tolstoï arrive à Moscou. Enfin, vient s'installer à Moscou. Tolstoï achète une très belle grande maison en bois que j'ai visitée, qui est magnifique. Et donc ils arrivent là et on peut dire que cette période charnière de 1881, tous les spécialistes de Tolstoï diront qu'il y a dans l'œuvre et la vie de Tolstoï un avant 1881 et un après 1881. Pourquoi ? Ben, avant 1881, ce sont l'époque de ses grands romans et après 1881, Tolstoï va renoncer à l'œuvre littéraire, si on pourrait dire. Pas complètement, on va voir pas complètement, mais si, au début. Pour se consacrer à toutes ces œuvres que l'on peut dire socio-humanistes. Mais en fait, lorsqu'on étudie vraiment Tolstoï, on se rend compte que beaucoup de gens disent qu'il y a deux Tolstoï. Moi, je ne suis pas d'accord. Il y a le Tolstoï littéraire et le Tolstoï humaniste après 1881. Mais tout son humanisme, on peut le rencontrer dans Guerre et Paix, dans Anna Karénine, dans Les Cosaques, enfin, dans toutes ces œuvres-là. Bref, donc voilà, ils arrivent là et c'est qu'est-ce qui se passe ? Parce que c'est quand même la grande crise chez Tolstoï, le grand bouleversement intérieur et extérieur. Tolstoï va être bousculé de fond en comble, mais qu'est-ce qui va être bousculé ? Une question qu'on peut se poser. Eh bien, toutes ces notions, toute son appréhension, son approche de l'existence, Tolstoï va encore être un chercheur de vérité. C'est comme ça qu'il se, qu'il se motive, c'est comme ça qu'il voit la chose. Il veut trouver, il veut vivre le vrai, la vérité. Donc il va renier toutes ces grandes œuvres littéraires, il dira que c'est du passe-temps, c'est pour les gens qui n'ont rien à faire, qu'il faut vraiment se donner tout entier à aider les gens modestes, les pauvres, les moujiks, les paysans, les éduqués, et que rien d'autre n'est plus important que cela. Donc, même si Tolstoï a été un nihiliste durant presque 35 ans, il va, dans sa quête de recherche d'authenticité, de vie intérieure, de vrai, il va aller marcher vers les monastères. Le grand monastère d'Optina Poustine, où Dostoïevski venait souvent, il va même aller, alors que lui, il est nihiliste, il est comme tous les Russes, bien sûr, influencé par la religion orthodoxe, mais il a pris une distance énorme là-dessus. Mais il va aller parler au fameux Starets. Le Starets, c'est le responsable du grand monastère d'Optina Poustine, le père Ambroise. Il va avoir de grandes discussions avec lui sur Dieu, sur la religion. Ils seront évidemment pas d'accord. Alors, dans toute cette période, Tolstoï, sa femme est complètement désolée parce que les rapports de guerre et paix d'Anna Karenine sont quand même faramineux. Hein. De voir son génie de mari commencer à aller partir à pied dans les monastères, prendre la blouse de paysan, c'est quand même, il faut quand même rappeler que Tolstoï, je l'ai dit 100 fois, c'est quand même un aristocrate de haut rang et aisé, donc il a des domestiques, mais bon, il part à pied, il a mal au vent. On pourrait rigoler beaucoup lorsqu'il décrit ses marches à pied au monastère d'Optina Poustine. D'autres monastères aussi, il avait des ampoules, il ne peut plus marcher, enfin bon... C'est très rigolo. Il arrive incognito dans le monastère et après on le reconnaît bien évidemment. Malgré lui, il veut habiter avec les pauvres pèlerins là, mais il se trouve très vite le lendemain à la table du responsable, père Ambroise, où là, il y a les fauteuils en velours et tout le bazar, quoi. Donc la contradiction totale, mais c'est Tolstoï. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va aussi près de sa propriété, il rencontre tous les fameux pèlerins. Il faut savoir que en Russie, la Russie du 19e siècle est très mystico-spirituelle. Énormément. Il y a les fous de Dieu, les folles en Christ. Tolstoï est fasciné d'aller rencontrer tous ces gens-là. Et donc, tous ces gens qui marchent dans les grands espaces russes, et comme le dit si bien Henri Troya, qui a écrit la plus grosse biographie de Tolstoï, je le cite une phrase, il dit « Rien ne prépare mieux l'âme à la rencontre de Dieu comme l'infinie platitude des steppes russes, où le regard fuit, flotte, se perd sans trouver d'obstacle. » Vous l'aurez compris, Tolstoï cherche Dieu, l'absolu, la vérité, quand même, hors des sentiers battus, qui sont trop étroits pour lui. Voilà, donc c'est un personnage, comme je l'ai dit souvent, passionné de la vie. La vie, la mort, c'est quelque chose qu'il ressent plus que le commun des mortels, qu'il vit très très fort. Tolstoï, il lui est arrivé à cette période de cacher les cordes pour pas se pendre, parce qu'il voit la négation totale de l'existence, cacher son fusil pour ne pas se tuer. Il ne l'a jamais fait, mais bon, c'est ce qu'on dit. Voilà. Et voilà, donc il dira plus tard, normalement, qu'un saint n'a pas peur de la mort. Et à quel point il cherche l'acte juste. Il a beaucoup lu, il a lu, bien sûr, toutes les religions qui viennent de l'Inde, de l'Extrême-Orient. Je crois que j'en ai parlé de ça déjà. Mais Tolstoï n'est pas un saint, mais certainement un génie. Et ce qu'on peut dire, c'est que le génie créateur littéraire de Tolstoï, lui, ne peut pas mourir. Alors, voilà, donc il écrira des choses, il va commencer à écrire des choses... Qui affole, comme je le dis, son épouse. Mais ce que je voulais dire aussi, Tolstoï, avec toutes ces différentes facettes de l'homme qu'il expose, avec ses contradictions, certains disent, que sa femme, c'est pas sa femme qui dit ça, une femme très pudique. Certains disent que sa femme avait une vingtaine de maris en Tolstoï. Bah oui, c'était, il changeait beaucoup d'état. Alors Tolstoï est changeant, souple. J'aime bien dire qu'il a cette âme slave qui nous fait vivre toutes les facettes de l'existence, cette âme slave qui va dans les hauts et dans les bas, comme la musique russe, on dit que c'est elle qui a le plus grand spectre dans les aigus et dans les graves. Donc ça, c'est aussi la Russie, les grands artistes russes sont comme ça, quoi. Ils passent de Dostoïevski ainsi et d'autres. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'il a pu incarner de nombreux personnages dans Guerre et Paix 529, en ayant toutes ces facettes de l'existence. Voilà, donc quand il arrive à Moscou, il va pas ne rien faire. Sa femme s'occupe de ses enfants et les naissances, comme vous le savez, elle a eu comme 13 grossesses succèdent. Hein. Et Tolstoï rencontre à Moscou tous les marginaux, les sectaires. Alors il y a une secte des vieux croyants, on en parlera plus tard. Les Ménonites, les Molokans, les Doukhobors. Ça, les Doukhobors, on en parlera. Et j'ai lu qu'en Russie, au 19e siècle, parce qu'il y avait quand même la police secrète, la police politique qui surveillait tout ça, on a recensé 10 000 sectes. Mais celles qui intéressent Tolstoï, ce sont surtout les sectes pacifistes. Celles qui vivent de la terre, celles qui refusent de faire leur service militaire, qui ne payent pas leurs impôts. Ça, ça intéresse beaucoup, beaucoup Tolstoï, ce genre de démarche. Lui, il est à fond là-dedans, quoi. Alors, il va vivre une vie, il va essayer de se donner à... il avait quand même 10 serviteurs à Moscou, hein, dans une grande maison. Alors, il va couper son bois, coudre ses bottes, c'est anecdotique, mais il va vider lui-même son pot de chambre. On en rit, mais il faut quand même savoir que ce genre de personnage, de rang, c'est pas lui qui faisait ça d'habitude. Donc, il veut s'assumer, il ne veut pas charger l'autre de ses corvées qui doit prendre en charge, quoi. Donc, il veut dénoncer, en réalité, haut et fort, l'exploitation de l'homme par l'homme. Il ne veut plus écrire de romans, et il va se consacrer à toutes ses œuvres religieuses, philosophiques. Je vais vous les donner, pas forcément dans l'ordre. Je vous encourage vraiment à lire Confession, ses confessions qu'il a écrit à Moscou en 1881, pour vous donner un peu l'ordre de ses écrits de l'époque, hein, qui vont s'étendre de 1881 jusqu'à 1890 et encore après. Il y a Critique de la théologie dogmatique, Ma religion, que ça c'était un livre extrêmement intéressant, Concordance et traduction des quatre évangiles, Le salut est en vous, quelle est ma foi, L'amour du travail, Le triomphe du laboureur, ça Tolstoï aime beaucoup ça, hein. De quoi vivent les hommes. Et donc, il y en a un qu'il ne faut pas oublier du tout, qui va être très important pour la suite des émissions, c'est en 1884, il écrit Le Sermon sur la montagne. Le Sermon sur la montagne, qui donnera comme écrit pour Tolstoï un peu plus tard, une dizaine d'années après, Le royaume des cieux est en vous. Tous ces titres paraissent très religieux, engagés, chrétiens, mais c'est des critiques très sérieuses de la religion orthodoxe, de la religion chrétienne institutionnalisée. Tolstoï veut vivre à la lettre le sermon sur la montagne où il est dit, je ne sais pas les termes exacts, mais je sais de quoi il s'agit quand même, c'est si on te frappe sur la joue gauche, tu tends la joue droite, ou le contraire. Et donc Tolstoï va à partir de ça, la dernière fois j'ai parlé de Chibouchine où il a dit la vérité doit s'imposer sans violence, et à partir de là Tolstoï va construire, c'est pas peut-être le mot juste, mais organiser toutes ces actions qu'on appellera pour lui la non-résistance au mal. Et avec Le royaume des cieux est en vous, c'est là qu'il va atteindre son apogée. Et c'est là que Gandhi le jeune Gandhi, qui a une trentaine d'années, va avoir connaissance du royaume des cieux en vous et s'en inspirer pour mettre en place la non-violence. Voilà, donc ce qui est important maintenant en 1882 à Moscou, où je veux en venir aussi, c'est que Tolstoï va participer à un recensement. Mais on va faire une petite pause musicale avant de vous parler du recensement auquel Tolstoï va prendre part activement. Et nous allons écouter Tchaïkovski, l'Andante cantabile, un quatuor à cordes, un morceau de Tchaïkovski que Tolstoï aimait beaucoup, énormément. Il était très ami avec Tchaïkovski et quand il est allé à Moscou écouter l'Andante cantabile, il a eu, on a vu qu'il avait les larmes aux yeux. Donc nous allons entendre l'Andante cantabile de Tchaïkovski.
Nous retrouvons Claude Ferré pour continuer notre périple dans la vie et l'œuvre de Léon Tolstoï. Alors nous sommes toujours aux alentours de 1881 et là un événement marquant va marquer justement la vie et l'évolution de Tolstoï, c'est un fameux recensement Claude Ferré.
Oui, alors nous sommes en 1882, Tolstoï, nous ne voulons pas aller à Moscou, il y est quand même, voilà, il accepte. Et Tolstoï ne fait pas rien, c'était, malgré lui, c'est un personnage qui a une activité absolument énorme. Et donc il y a un recensement, en 1882, on va recenser la population de Moscou, il faut embaucher 2000 étudiants et 80 responsables. Tolstoï va être parmi les 80 responsables. Et pour lui, alors, il ne faut pas oublier qu'un artiste, un génie comme Tolstoï, tout ce qu'il fait, c'est matière à... c'est un matériau pour écrire après, pour écrire plus tard. Il écrira d'autres œuvres encore littéraires. Mais tout ce qu'il fait, il le regarde d'un œil d'artiste. Et il prend des notes, il écrit. Donc voilà. Et c'est une aubaine. Lui ne connaît pas vraiment. Il connaît la campagne, ses moujiks. Il a beaucoup travaillé avec eux, à leur contact au champ. Et il ne connaît pas le monde ouvrier des villes. Et donc, ça va être pour lui une merveilleuse exploration dans les bas-fonds de... Il va aller lui-même dans les bas-fonds de Moscou. Et si vous lisez à propos du recensement de Moscou, un tout petit fascicule que Tolstoï a écrit à la suite, parce que Tolstoï a été complètement bousculé, bouleversé de découvrir ce qu'il découvre, des gens qui habitent, qui n'ont rien, qui habitent dans des baraques insalubres, tous les uns sur les autres, beaucoup de prostitution. Il est horrifié, il n'avait jamais vu de telles choses. Et il le décrit à merveille. Et donc il se dit, mais il faut faire quelque chose. Lui, Tolstoï, au moment de ce recensement, il se dit, mais on ne va pas faire que de compter le nombre de gens et le nombre de matelas qu'ils ont. On va travailler à les aider. Alors, comme je vous l'ai dit, Tolstoï entre et pleinement dans la dénonciation de l'exploitation de l'homme par l'homme, et il veut faire quelque chose pour que ça change, pour que ça bouge. Et on sait que c'est pas facile, évidemment, de faire bouger une masse de 100 millions d'habitants. Et donc, il va quand même vouloir donner de l'argent à certains, inviter des gens chez lui, mais sa femme est complètement affolée, il peut pas secourir tout le monde. Et donc, là où je veux en venir, parce que vous pouvez trouver, il y a un merveilleux livre qui vient de sortir de Tolstoï, qui est traduit pour la première fois en français depuis l'an dernier, qui s'appelle « L'argent et le travail ». Et donc là, vous aurez tout. Donc, il écrit à la suite du recensement de Moscou « L'argent et le travail ». Et l'argent et le travail, c'est vraiment une réflexion d'une étonnante actualité. C'est une profonde réflexion sur l'exploitation de l'homme par l'homme que Tolstoï fait. Et je recommande vraiment à nos auditeurs de lire l'argent et le travail. On le trouve en librairie maintenant. Il vient d'être traduit pour un prix, même à Millau, ils l'ont commandé, ils l'ont. Et l'argent et le travail, ceux qui s'intéressent à la société d'aujourd'hui, à la société actuelle, on a vraiment l'impression. Tolstoï analyse, essaye de comprendre ce qui se passe, l'origine de la pauvreté, du malaise. Et là, il va faire toute une longue analyse et dissertation, enfin une exploration. Donc là, on voit à quel point il va dénoncer tous les pouvoirs absolus, particulièrement ceux de l'Église, de l'armée, de l'État, des tsars. Et il va s'en prendre, à tous les pouvoirs, quoi. Et ce que je dois vous dire à la suite de cela, c'est que, à la suite de l'argent et le travail, à propos du recensement, ce qui m'intéresse dans ce travail de Tolstoï, qui est tellement d'actualité, j'ai donné une conférence à Montpellier il y a quelques mois sur Tolstoï et le capitalisme, et je vais essayer de vous donner les grandes lignes qui sont des sujets, je trouve, d'actualité. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en 1881, il y a quand même eu aussi un événement qui est fort important, c'est que le tsar Alexandre II est assassiné le 13 mars 1881. Et comme Tolstoï veut donner toutes ses énergies pour engager lui-même et la Russie dans la non-violence, on parlait quand même de la Sainte-Russie à cette époque-là. Et donc, il a écrit personnellement au fils d'Alexandre II, à Alexandre III, afin qu'il donne un exemple unique, non seulement en Russie, mais à la face du monde, que, c'est facile à dire ça, mais que Alexandre III, le fils d'Alexandre II, gracie les coupables et qu'il les gracie. Donc sa femme était alors morte de peur qu'il se permette de demander la grâce des coupables. Il a dit, il a supplié Alexandre III, faites un précédent, un exemple, vivez vraiment le Christ, vivez, enfin tout ça quoi.
Et alors Alexandre III, comment il a réagi?
Alexandre III n'a pas tenu compte, et les 4 ou 5 personnages qui étaient à l'origine de... ils ont été pendus, quoi, évidemment. C'était pas évident. Bon, il y a eu la mort juste avant, en janvier 80, de Dostoïevski, j'allais dire le rival de Tolstoï, non, mais le double de Tolstoï. Bon, on peut pas s'étendre trop là-dessus. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est toute cette réflexion sur Tolstoï avec son livre « L'argent et le travail ». Qu'est-ce qui s'est passé après cela? Ben, je dois vous dire quand même, dans ses voyages que Tolstoï a fait, je dois vous parler en deux mots de ses influences. Parce que comme toute personne, aussi géniale soit-elle, a reçu des influences. Tolstoï a beaucoup, beaucoup lu. Quand dans ses voyages en Europe, la personne qui l'a beaucoup touché, c'est le fameux Pierre-Joseph Proudhon. Proudhon, comme vous le savez, cet anarchiste et ce philosophe économiste du 19e, qui s'est exilé à Bruxelles. Et Proudhon, dans son mémoire « Qu'est-ce que la propriété ?», c'est Proudhon qui avait rendu célèbre cette fameuse phrase que Tolstoï a repris à maintes fois, « La propriété est un vol ». Pas rien de dire ça au 19e siècle.
Même aujourd'hui.
Même aujourd'hui, de dire cela, que la propriété est un vol. Bon, c'était une phrase qui avait été dite au moment de la Révolution française, que Proudhon avait reprise. Alors, il a rencontré des gens comme Herzen, qui étaient des Russes exilés en Europe, en Angleterre, père du socialisme. Dickens, un Anglais qui travaillait beaucoup sur la misère du peuple. Voilà, ces gens-là. Et puis, il avait lu un économiste humaniste américain, un peu plus tard, comme ça, Henri Georges, qui, dans son livre « Le progrès et pauvreté », qui avait eu un immense succès, lui aussi parlait que la propriété est un vol. Et que l'eau, alors là c'était comme ça serait, c'est très intéressant pour aujourd'hui, tu vois Audrey, c'est que il disait déjà au milieu du 19e siècle que la terre, l'eau, l'air et le soleil ne devraient pas faire l'objet de propriété, mais appartenir à tout le monde.
Écoute Claude, personne n'a cité Tolstoï à la manif contre les gaz de schiste à Nantes, mais ils auraient pu.
J'y étais. Mais bon, je ne vais pas me ramener mon Tolstoï tous les jours. Donc, il n'y a pas que Tolstoï qui a dit ça. Hein. Henri Georges, Proudhon, mais Tolstoï l'a répandu énormément en Russie. Donc, j'ai cité les personnages les plus importants dont il sait. Henri Georges, il a beaucoup parlé d'Henri Georges, cet Américain. Donc, l'accaparation des richesses naturelles par une personne ou un groupe de personnes est un vol. Un hold-up qui ne peut se maintenir et se faire que par la violence, dit Tolstoï. Et c'est tellement d'actualité, on voit bien toutes les dictatures qui se révoltent. On n'entend pas parler de leur police secrète, mais dès qu'il y a des manifestants, ils ont tous des super polices. Hein. Donc tout État, même notre État, soi-disant démocratique, il dit, Tolstoï, que tout, il insiste là-dessus, hein, il le démontre. Et le démontre aussi que tout pouvoir, quel qu'il soit, même démocratique, ne peut exister sans le recours à la force, à la violence. Donc ça, c'est les tribunaux, c'est violent parce qu'on juge des gens, on ne sait même pas s'ils sont coupables, l'armée est bénie, évidemment, par la puissante Église orthodoxe. Alors, il dit une chose qui est très intéressante. Il dit... Tolstoï, il veut aider tous ces pauvres, il veut que ça change, mais il dit, il va voir les gens riches, il connaît quand même beaucoup de gens, Tolstoï, à Moscou, il va voir des gens qui ont beaucoup d'argent, il dit, oui, on va vous donner, Lev Nikolaevitch, de l'argent, bien sûr, mais il dit qu'une vérité morale est toujours connue, oui, on voit des faits, on voit des pauvres, on voit des gens, on voit la société comme ça, tout le monde la reconnaît comme évidente, mais il dit, Tolstoï, mais après, elle n'est ni comprise pour régler les choses, ni comprise, ni appliquée. Et alors, il dit le rôle de toute activité humaine est de faire comprendre les vérités morales. Bon, ça, c'est Tolstoï qui parle, mais on peut, dans le 19e siècle, il faudrait peut-être mettre des termes plus adéquats, mais je pense que tout le monde a compris. Alors, dans cette étude qu'il fait, c'est pas trop fastidieux, Audrey ?
Ça va, j'apprends beaucoup de choses. Hein. Donc, j'imagine que les auditeurs, c'est pareil pour eux.
Voilà, donc Tolstoï va aller dans cette étude sur l'argent et le travail, il va aller à la recherche des causes de tout cela, quoi. Il va aller à la recherche des causes. Et il va dire pourquoi la base de la misère, ils se rendent compte que c'est l'exode rural. Ça continue 150 ans après. On voit bien que dans le monde entier, une ville de 20 millions d'habitants, c'est pas normal. On verra dans quelques siècles avant que c'est invivable, c'est pas normal. Donc lui, il se dit pourquoi, il cherche pourquoi les gens quittent la terre. Alors l'accaparement, l'exode rural, il dit c'est l'accaparement des richesses par les non-producteurs. On vient se nourrir en ville alors que la richesse vient de la campagne, les chevaux, les troupeaux, le blé, les forêts. Les riches s'assemblent dans les villes et ils vivent leur fantaisie sous l'œil vigilant de la police. Ils évitent tout travail productif et dépravent le paysan venu en ville. Il faut démolir la muraille construite par la propriété et l'instruction de la façon dont elle est faite pour maintenir la chose comme ça. La cause de la misère, c'est la richesse des riches. C'est pas rien de dire ça comme ça.
C'est pas rien, on peut le reprendre. Hein,
mais moi, je pense que Tolstoï avait une force de frappe et de parler. Mais je me demande, certaines personnes me disent, mais il dirait ça aujourd'hui même en France. Mais on me demande s'il ne serait pas mis arrêté, quoi. Enfin, on continue. On continue, il y a tellement de choses à dire que il faut que je sois plus bref peut-être, parce que là, on va mettre des heures, quoi. Et j'ai pas lu, il va écrire aussi un petit fascicule qui s'appelle « Que devons-nous faire ?» qu'il a écrit en 1883. « Que devons-nous faire ?» malheureusement n'est pas encore traduit, ou je ne l'ai pas trouvé, en français. On le trouve à la BNF à Paris en français. Mais bon, on ne va pas tous les matins à la BNF lire les œuvres de Tolstoï en français. Mais « Que devons-nous faire ?» en 1883. Je trouve que je ne l'ai pas lu, mais j'ai eu un compte-rendu et je trouve que c'est splendide. C'est une condamnation sans appel des principes sur lesquels est fondée la société moderne en Russie et dans le monde entier. La propriété, moyen d'exploitation de l'homme par l'homme, est source d'inégalité. Il reprend l'État, instrument de contrainte, perpétuant la domination des riches sur les pauvres. L'Église asservie à l'État, le progrès technique ne bénéficiant qu'aux privilégiés. L'art et la science moderne placés à leur service. Et cependant, c'est là que c'est important, Tolstoï réprouve maintenant, à partir de maintenant jusqu'à la fin de sa vie, réprouve le recours à la violence révolutionnaire. Et il pratique l'action philanthropique et la propagande de la vérité religieuse. Oui, il faut savoir que Alexandre II a été assassiné par des extrémistes, on disait assassiné par les nihilistes, mais il y avait des extrémistes, on peut dire, oui. Et c'était certainement le meilleur tsar qu'il y a eu dans tout le 19e siècle. C'est lui qui a encouragé la libération des serfs et qui a fait des lois bonne pour cette époque-là, quoi. Et il faut savoir aussi, depuis les décembristes 1825 jusqu'en 1917, la Russie est en pré-révolution. Ça bouge. Alexandre II, pardon, a eu 13 attentats avant d'être tué, quoi. Alors, Tolstoï va faire feu de tout bois. Il dénonce toutes les injustices. Il écrit son sermon sur la montagne en 1884. Il dit l'argent, à propos du recensement, l'argent est un mal. C'est pourquoi certains en donnent pour se décharger, qui dit faire du bien. Le prolétariat n'est pas une fatalité, dit-il. Il n'y a pas de devoir plus impérieux que supprimer les inégalités sociales. Et oui, il avait bien compris qu'il fallait faire quelque chose dans ce sens. Mais alors, comme toujours, Tolstoï réfléchit sur lui-même, parce qu'il ne veut pas agir qu'en dehors de la société, en dehors de lui. Il veut agir sur lui-même. Cette crise existentielle aussi est liée à sa vie profonde, intime. Alors, il va aider les gens, il donne de l'argent, puis il se rend compte, il dit « Qui suis-je pour prétendre à secourir les autres ?» Un fainéant qui profite du travail des autres, dit-il. La chose est pourtant bien simple. Si je veux secourir les pauvres, les faire sortir de la misère, je ne dois pas multiplier ces pauvres. Voilà. Donc, il dit que c'est trop facile de donner de l'argent et puis continuer sa vie comme si de rien n'était. Non. Ça, pour Tolstoï, et je le comprends aussi, c'est pas aider. Pour Tolstoï, on doit changer. On ne doit pas, comme il dit, ben, c'est très d'actualité. Tous les gens qui veulent vivre simplement, pas consommer, c'est dans ce mouvement qui a commencé déjà au 19e siècle. Oui, une petite parenthèse, j'avais 20 ans, 21 ans en 68, et tous les jeunes de mon âge ont pensé qu'on avait révolutionné le monde, qu'on avait découvert quelque chose, des idées fantastiques, qu'on était des révolutionnaires. Mais quand je lis Tolstoï maintenant, je me dis, bon, on a rien inventé, quoi. Des gens comme Tolstoï, un siècle avant, avaient déjà fait tout ce travail. Mais bon, le matériau humain, les cellules, ben, ça doit se répercuter. Puis un jour ou l'autre, ça arrive, quoi. L'argent, dit-il, représente le travail. Oui, il représente le travail. Mais de qui ? Dans notre société, il arrive bien rarement que l'argent soit le produit de travail de celui qui le possède. Il représente presque toujours le travail passé ou futur des autres hommes, des vrais travailleurs. Il représente enfin le travail obligatoire des ouvriers, celui qu'on leur impose par la violence. Et il dira aussi, l'argent est donc une nouvelle et terrible forme de l'esclavage. Le travailleur est indissociable de ses outils de travail. S'il ne les possède pas, c'est que quelqu'un les détient à son détriment. Mais voilà, donc on pourrait continuer à parler, extraire des choses comme ça. Pour ce qui m'intéresse dans cette émission, ce qui passe très vite, c'est de donner l'envie à ceux qui le veulent de lire ce livre, L'argent et le travail, qui est un livre disponible en français et qui est vraiment très, 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 très intéressant. Il a fait après toute une étude encore, il a continué. Qu'est-ce que l'argent ? L'asservissement de l'homme par l'homme n'a pas pour cause, s'ils font croire les économistes, la puissance de l'argent en elle-même, mais bien ce fait, et ça je trouve que c'est très important, et c'est valable vraiment aujourd'hui, il dira, mais bien ce fait que le travailleur ne reçoit pas la rémunération tout entière de son travail. Et ça, c'est vraiment, vraiment, terriblement, aujourd'hui, d'actualité, que tout est organisé aujourd'hui, de plus en plus, je le dis, que pour que, ben, on parle des dividendes,
des primes aux actionnaires.
Des primes aux actionnaires, on est en plein dedans. Des cadres, des PDG qui sortent avec des millions d'euros. Et lui, le gars qui se lève à 5h du matin pour aller travailler, ne peut plus payer, va bientôt, avec l'inflation qui arrive, ne plus payer. Donc, ça veut dire que plus payer ce qu'il a, l'essentiel. Que le travailleur, la majorité des travailleurs, aujourd'hui, ça c'est en 1884 que c'est dit, hein, ne reçoit pas la rémunération tout entière de son travail. Et sur cette terrible constatation, nous allons mettre Tchaïkovski, une musique d'espoir, fabuleuse musique d'espoir. C'est la valse sentimentale de Monsieur Tchaïkovski.
Claude Ferré, qui continue l'analyse de Tolstoï sur l'exploitation des paysans, des ouvriers, pour finalement asseoir la richesse d'une infime partie de la population des terriens.
C'est ça. Donc Tolstoï s'acharne, avec quand même, il met tout son génie, littéraire, son génie d'artistique. Il ne veut plus produire de romans pour vendre des romans. Il veut que toutes ses œuvres, on le verra encore dans des émissions, soient gratuites, soient offertes au peuple. Il dit « j'ai pas le droit de profiter du peuple, du riche ou du pauvre, peu importe. Tout ce que je fais, en gros, je dois mettre toutes mes capacités, mes énergies au service de l'homme, quoi. » Alors, précisons quand même que, après cette merveilleuse valse sentimentale de Tchaïkovski, qui est fabuleusement belle, je trouve, il faut savoir que Tchaïkovski venait souvent à Moscou chez les Tolstoï, Rimsky-Korsakov aussi venait, et la famille Tolstoï, ce sont des très très grands artistes. J'allais dire, en Russie, quel aristocrate n'était pas artiste ? Même les paysans. Les paysans, il y a des grands artistes, la musique en Russie est dans toutes les demeures, le chant et la musique. Et d'ailleurs, tous les grands, comme Tchaïkovski, Rimsky-Korsakov et beaucoup d'autres, je ne les passais pas en tête, se sont tous inspirés des musiques populaires pour faire leur musique, leur grande musique, quoi. Donc, très artiste chez les Tolstoï. Sa femme joue jusqu'à 2-3 heures par jour du piano, pas tous les jours, mais par période, Tolstoï aussi. Ils sont tous peintres, ils font beaucoup de la sculpture aussi. Ils écrivent bien évidemment tous, hein. Ils font beaucoup de patinage, ils sont très spécialistes sur les patinages sur glace, quoi. Voilà, petite anecdote. Donc, il dit Tolstoï dans cet extrait, comment peut-on abandonner les villages où se trouvent les champs, les forêts, le blé, le bétail, c'est-à-dire toute la richesse de la terre, et venir chercher la nourriture dans un endroit où l'on ne voit que des pierres et de la poussière? Mais ça, c'est valable pour Mexico, pour New Delhi, pour Tokyo peut-être aussi. Or, depuis que la monnaie existe dans le monde et depuis que le crédit, comme sa conséquence, s'est établi, il est devenu possible d'aliéner son travail futur ainsi. Ainsi, grâce à la violence qui règne dans notre société actuelle, l'argent ne représente plus qu'une nouvelle forme d'esclavage impersonnel à la place de l'ancien esclavage personnel. Alors, il dit aussi une chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup de choses de Tolstoï, mais bon, j'essaye de sortir les choses qui me marquent et qui sont en résonance avec notre époque d'aujourd'hui. Les paysans, dit-il, savent depuis longtemps à quoi s'en tenir, et ils ont trouvé ce dicton pour exprimer la chose. J'aime beaucoup cette phrase. Le rouble frappe plus douloureusement que le knout.
C'est quoi le knout?
C'est le bâton, c'est le bâton avec lequel la verge avec laquelle on battait les gens, quoi. Seuls les économistes ne veulent rien voir. L'affirmation que l'argent ne crée pas des rapports de suggestion a la prétention d'être aussi exacte que l'était il y a un demi-siècle celle que le servage n'asservissait pas les hommes. Voilà, donc tout est dit, hein. Pourquoi ne pas espérer comprendre enfin qu'il n'y a pas de devoir plus impérieux que celui de supprimer les inégalités sociales? Ça, il l'explique énormément tout le temps, ça. Et enfin, je vais vous parler deux minutes d'un petit livre que l'on trouve difficilement en français, qu'il a écrit en 1900, mais comme nous sommes dans ce thème-là, je vous le dis maintenant, qui s'appelle « L'esclavage moderne ». Et « L'esclavage moderne », c'est un petit qui est la suite de « L'argent et le travail ». Mais « L'argent et le travail », je trouve que c'est vraiment très, très approfondi, c'est même un sujet d'étude pour voir comment nos sociétés capitalistes aujourd'hui fonctionnent. Mais « L'esclavage moderne » m'intéressait beaucoup, beaucoup, parce que, en résumé, il dit dans l'esclavage moderne que chaque génération se libère un peu de quelque chose. On a l'impression. On dit on est mieux que nos parents et j'ai entendu ça depuis que je suis petit. Chaque génération se libère de quelque chose. Mais il dit aussi que subrepticement, chaque génération, plus subtilement, crée une nouvelle forme d'esclavage. Et dans ce livre, L'esclavage moderne de Tolstoï, c'est extraordinaire comme on distingue la façon dont les gens, les hommes de toute génération, on pense être libres. Et on le voit aujourd'hui. On le voit aujourd'hui. On croit qu'on est libre, mais si on nous coupe la télé, si on nous coupe le téléphone, si on nous coupe plein de choses, on se rend compte qu'on n'est pas si libre que cela. Et donc, il dit, évidemment, par exemple, un exemple. On a supprimé l'abolition on a l'abolition du servage en 1861. Certes, il fallait, on ne pouvait pas continuer comme ça en Russie. Mais il faut savoir que ça va de pair, cette abolition du servage en 1861, avec le développement industriel qui arrive. Et il fallait des ouvriers dans les fabriques. Tu vois ce que je veux dire, Audrey?
Je vois.
Et après, ben, ça a créé de nouvelles, ça crée un nouvel esclavage. Il faut aller en ville, il faut avoir des, il y a des besoins, il faut, et la plupart des gens sont plus, et c'est là que Tolstoï est furieux. Il se rend compte que les gens, les paysans qui viennent en ville à cette époque-là, et très longtemps ça a duré, sont plus malheureux qu'à la campagne. Bien évidemment, plus malheureux qu'à la campagne.
Les mots changent, mais les principes restent les mêmes finalement.
C'est exactement ça. Les mots changent, mais le moujik, il reste
féodé à un autre pouvoir.
Un autre pouvoir et plus dépendant, parce qu'il va en ville, il est une totale dépendance. Il fait plus ses légumes, il fait plus son jardin, il coupe plus son bois, il faut qu'il achète tout. Donc il est contraint de consommer.
C'est peut-être encore plus pervers parce qu'il ne s'en rend pas compte. On lui fait croire qu'il est plus heureux et plus libre qu'avant.
C'est excellent ce que tu dis, Audrey. C'est exactement ça dans l'esclavage moderne, ce qui dénonce Tolstoï. Et c'est ça aujourd'hui aussi. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit pendant tout le XXe siècle ? Consommez, vous serez plus heureux.
C'est ça.
Exact. Et puis, un jour ou l'autre, tu vois que le ballon, ça explose. Quoi. On ne peut plus consommer. On ne va pas se lever la nuit pour consommer. Donc, il faut...
On prend un gros coup de knout.
Un gros coup de knout, quoi. Donc, il dit, le rouble, l'argent, est encore plus pernicieux que les châtiments corporels. Bon, je ne suis pas pour les châtiments corporels, bien évidemment. Hein. Nous arrivons à la fin de l'émission. Et il faut quand même dire une dernière chose. Dernière chose, il y en aurait quand même beaucoup de dernières choses à dire. Tolstoï distingue dans l'histoire de l'humanité trois formes de servitude. L'esclavage personnel imposé par la violence, parce que l'ouvrier n'est pas libre à cette époque-là de ne pas aller travailler. L'esclavage imposé par la faim, parce qu'on sait très bien, même Monsieur Kadhafi sait très bien que s'il veut maintenir son peuple, il a dit, hein, je peux carrément créer une famine. Les Russes, les Soviétiques ont très bien su faire ça sous Staline. Hein, donc c'est une forme d'esclavage. Et enfin, alors il insiste beaucoup, l'asservissement par l'impôt, qui est caractéristique des systèmes monétaires et du despotisme centralisé. Alors, c'est des termes que Tolstoï emploie il y a pratiquement 150 ans, mais qu'on pourrait carrément, caractéristiques des systèmes monétaires et des despotismes centralisés, on pourrait presque dire que c'est d'aujourd'hui, quoi.
Ah oui, je ne sais pas si nos dirigeants ont Tolstoï sur les étagères de leur bibliothèque.
Oui, il y a eu des dirigeants qui s'intéressent à Tolstoï, on en parlera plus tard. Il y a Lénine qui s'intéresse à Tolstoï, mais oui, bon, peut-être pas comme il aurait dû. Puis d'autres, hein, il n'y a pas que... Il est quand même connu. Alors, lorsqu'on a dit ça, je voudrais dire quand même que Tolstoï, il a une analyse très intéressante. Il dit, d'où vient ce fait de la propriété ? D'où vient que ceux qui possèdent la terre et les instruments de travail ne la travaillent pas ? Et que ce soit précisément ceux qui ne possèdent rien de tout cela qui la travaillent. La propriété vient de la loi du plus fort, dit-il. Les conquérants, parce qu'il a parlé l'argent et le travail, il a fait parler de cela, c'est un résumé que je vous fais. Les conquérants annexent les terres et soumettent leurs habitants, puis les asservissent par l'argent, et contient tout le monde par la violence. Qu'est-ce que font les grandes... je ne veux pas citer aucune entreprise ou aucune grande distribution qui, qui asservissent, on continue. On va dire, mais on ne peut pas payer plus cher. C'est faux. Ils annoncent dans la phrase suivante à la radio qu'ils ont gagné 14 milliards, je dis n'importe quoi, de bénéfices. Donc, on asservit bien les gens qui travaillent. Voilà. Je dois m'arrêter et je vous dirai la suite plus tard. Mais nous allons conclure là-dessus. Et
rappeler peut-être les ouvrages
que je vous ai présentés. Dans cette émission, je vous encourage à lire, vous pouvez le trouver, ceux que ça intéresse, Confession. C'est difficile à trouver, mais ça peut se trouver. Confession de Tolstoï. Ma religion, je l'ai trouvé en français. Très difficile, mais ça se trouve. Le sermon sur la montagne. Le royaume des cieux est en vous. Et évidemment, évidemment, l'argent et le travail, on peut le trouver à Millau de Tolstoï, où il y a, à propos du recensement, il y a même, je crois, une analyse de... Ah là là, j'ai un trou de mémoire. Cet écrivain de la fin du 19e siècle, il y a Émile Zola.
Ah oui, c'est sûr, voilà, on comprend.
Voilà.
Et au niveau de la musique que tu nous as donnée à entendre, Claude?
Alors, la musique, il y a le premier morceau, c'est donc l'Andante cantabile pour quatuor à cordes de Tchaïkovski, que Tolstoï aimait beaucoup. Et le deuxième morceau que vous avez entendu, c'est donc de Tchaïkovski, la valse sentimentale, que j'aime beaucoup, personnellement. Et nous allons, en finale, écouter... Mais Audrey va dire quelque chose avant, mais nous écouterons au final la fin de l'Andante cantabile de Tchaïkovski.
Alors on se dit au revoir et puis on annonce que le mois prochain, ce sera une petite parenthèse dans la progression des émissions, puisque Claude, tu nous proposeras une rencontre dans la résidence de Tolstoï au doux nom de Yasnaya Polyana. Oh là là, je suis
non, mais c'est pas grave,
incorrigible.
C'est normal.
Donc Claude Ferré, tu as visité cette résidence et puis ce sera aussi l'occasion de partir à la rencontre de la femme de Tolstoï, Sofia Andrievna. J'espère que j'ai mieux prononcé. Pour écouter cette émission, rendez-vous lundi soir à 21h et mercredi matin à 11h.